RCF Le Mans, l'invité de la rédaction.
Nous sommes entourés d'instruments de musique, de drôles d'instruments qui sont recueillis ici au Centre du patrimoine de la facture instrumentale au Mans. Et nous sommes avec un des responsables du CPFI, Bernard Poulelaouen. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons appris que vous preniez votre retraite. Alors vous nous dites finalement pas tout à fait. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Bon, prendre une retraite en général, c'est faire... On part du travail, on essaie de reconstruire une autre vie, plus calme, avec d'autres... un temps pour les amis, un temps, etc. Mais moi, j'ai envie de continuer des projets qui me tiennent à cœur. Après tout, c'est moi qui ai fondé le CPFI ici. Depuis 17 ans, on existe, on a fait une aventure. Avec mes collègues, on va continuer à travailler. J'aurai plus le même statut, j'aurai moins de stress. Je vais leur donner toutes les choses administratives, toutes les choses dont j'ai horreur finalement, pour garder des choses dans lesquelles je suis compétent. Par exemple, la recherche, faire des conférences sur des tas de sujets. Également, aller tourner des films, continuer les missions de recherche à l'université, parce que j'enseigne à l'université en Allemagne. Là, je continue aussi, parce que c'est un moyen de rester avec des chercheurs, de rester avec des étudiants et de pouvoir approfondir des tas de sujets qui nous intéressent ici au CPFI.
Alors vous gardez quel statut au sein du CPFI ?
Comme les vieux en Afrique, on les met sous l'arbre à palabres et puis on vient les consulter pour prendre les bonnes décisions. Alors je vais être un conseiller comme ça au CPFI.
Vous disiez, vous l'avez fondé il y a 17 ans. Qu'est-ce qui avait motivé la fondation du CPFI ?
D'abord, c'est une vieille idée que j'avais eue depuis très longtemps quand j'étais chargé des affaires culturelles à la ville de Chinon, une petite ville, 10 000 habitants. Et on avait, avec des collègues luthiers, j'étais fabricant de guitare à l'époque, et avec des luthiers, on avait fait une grande exposition sur Regard sur la lutherie à Paris, à l'Hôtel de Sens. Et c'est la grande bibliothèque française des arts et techniques. Et du coup, à l'inauguration de cette exposition, on avait inclus des instruments ethnographiques. Bon, on va dire faire plus simple, des musiques du monde. Et du coup, il y a des gens qui sont venus nous voir. On a eu près de 800 personnes à l'inauguration. Et dont il y avait la Cité de la musique qui n'était pas encore ouverte, donc il nous a demandé de... Mais son équipe était déjà constituée, donc ils étaient là. On a donc collaboré à certains travaux au départ. Et puis il y a eu le Musée de l'Homme qui est venu nous charger ou nous demander si on était d'accord de conduire les programmes de restauration des instruments de musique du Musée de l'Homme. Donc on a fait ça pendant 3 ans avec les instruments partout qu'est Branly après. Et puis Jean-Jacques Ayagon est venu nous voir, qui était alors directeur des affaires culturelles à la ville de Paris, avant de devenir ministre et président de Versailles. Donc il est venu vers moi et il m'a dit, écoutez, votre exposition me plaît beaucoup, on a une collection ici à Paris, on ne sait pas trop quoi en faire, est-ce que vous voulez bien vous en occuper ? Ça s'est passé exactement comme ça. Donc on s'est retrouvé dans son bureau, on a regardé un petit peu, évalué cette collection qui était en gros de 3000 instruments, et il faut les loger, les 3000 instruments. Et j'étais en lien avec l'ITEM, qui c'était les premières années de son existence. Et
donc l'Institut des métiers de la musique.
C'est ça. Et donc on a eu une réunion a été créée avec Jean-Claude Boulard, qui était alors président de la communauté urbaine à cette époque-là. Et pas grand monde ne savait qu'il avait étudié l'ethnologie avec Georges Balandier. Et donc il a... Peut-être y retrouver un côté de sa jeunesse, enfin un rêve qu'il voulait continuer finalement. Et il nous a dit, non, il faut que vous soyez au Mans. C'est très bien. Et Jacqueline Pedoya était là aussi. Et c'est parti de ces deux personnes qui ont eu un coup de cœur sur notre aventure. On leur a dit, voilà, qui on est, ce qu'on a fait, ce qu'on pourrait faire. Et après, tous les autres se sont raccrochés très rapidement à cette idée-là, la ville, le conseil général, au-delà des clivages politiques. Et ce qui nous a fait très très plaisir.
Donc l'idée, c'était de rassembler un peu tous ces instruments du monde, toutes les connaissances autour de ces instruments. Et maintenant, 17 ans après, quel est votre regard sur la conservation de ces instruments ? Est-ce que vous avez réussi à les faire vivre à travers le regard du public ?
Conservation, malheureusement, on n'a pas de programme de restauration. Bien sûr, on répare un ou deux instruments que ça ne fait trop mal au cœur. Parce que de cette collection, il y avait un tiers qui était irrémédiablement cassé, un tiers qui était réparable et un tiers qui était en parfait état. Parmi elles, d'ailleurs, des très très belles pièces et très rares. C'était très difficile de mettre au point un programme de valorisation de cette collection. Donc on la valorise petit à petit, selon nos moyens, parce que les budgets sont quand même relativement restreints. Vous savez, les finances publiques, évidemment, sont restreintes. Donc, nos budgets sont aussi restreints.
Parce que vous dépendez beaucoup des finances publiques ?
Oui, à 99%, bien sûr. Et en quelque sorte, on va y revenir dans le deuxième volet, qui est les faire vivre. Donc, en gros, on s'est approprié une image de service public, quelque part. Mais pour la conservation, on n'a pas ici de lieu de conservation optimal. Il faut bien le dire, les instruments sont un petit peu dans le noir. Quelquefois, il y a de l'humidité qui arrive. Enfin, on souffre un petit peu avec ça. J'espère que dans le futur, avec la ville, puisque la ville du Mans a racheté cette collection à la ville de Paris pour nous stabiliser ici au Mans. Donc j'espère que la ville au Mans, maintenant que c'est un bien public, notre bien public à tous finalement, qu'on trouvera une solution pour les maintenir dans un état, un lieu plus intéressant peut-être pour les stocker.
Alors Bernard, pour le Laouen, est-ce qu'on peut découvrir quelques-uns de ces instruments de musique ? Il y en a beaucoup autour de nous, est-ce qu'on peut en écouter quelques-uns ?
Alors ça, c'est un gong chinois, par exemple, qui est assez un grand diamètre quand même, hein, puisque ça atteint presque un mètre. Et c'est un instrument qui est fait de plusieurs métaux et qui a des particularités sonores qui nous aident beaucoup, en particulier pour expliquer aux enfants que l'air vibre. Ça, c'est extraordinaire. Alors voilà. Je ne parle pas trop fort parce que...
On entend toute la diversité du son. On imagine bien la vibration.
Oui, et là, je ne fais que caresser. Hein.
Ah oui, ça peut être beaucoup plus bruyant.
Ça peut être extrêmement bruyant. C'était aussi un instrument de torture en Chine. On mettait les gens derrière, on leur liait pieds et poings et on tapait sur le gong et ça les faisait éclater les tympans.
Est-ce qu'il y a un autre instrument que l'on pourrait découvrir ? Je vois les instruments à cordes.
La kora, c'est l'instrument des griots, des djeli africains, hein, dans toute la zone mandingue. Et c'est fait d'une calebasse avec une peau de jeune vache, hein, ou d'antilope quelquefois, qui est tendue, avec 21 cordes. Alors voilà, et ça c'est une particularité, c'est que c'est une kora revisitée un petit peu, puisque les cordes sont faites en KF, qui est un matériau, on va dire, qui ressemble au boyau, mais qui ne va pas sécher comme le boyau. Donc ça va être beaucoup plus... Évidemment, je ne sais pas jouer, elle est désaccordée.
Oui, vous savez un petit peu en jouer quand même.
Non, je vais mettre mes doigts sur les cordes, mais ça n'a rien à voir avec les jeux des griots. Alors, c'est extraordinaire.
Alors, ce qui est amusant, c'est que vous tenez la kora en face de vous, en fait.
Oui, parce que le trou est de l'autre côté, vers le public.
Est-ce que vous avez un instrument avant ?
On va prendre peut-être une trompette de Tibet. La trompette du Tibet, ça c'est quelque chose. Ah non, ça, le Gopiantra, il est pas mal aussi. Le Gopiantra, voilà, ça c'est l'instrument des mendiants en Inde. C'est un instrument bâtard, puisqu'en fait on ne sait pas si c'est une percussion, il y a un tambour, et il y a une corde pour autant. Mais c'est la fameuse pédale wah-wah, hein. On joue ici sur la tension de la corde en appuyant sur les deux pièces de bois de chaque côté de la corde. Donc ça va tendre et détendre la corde. Exemple. Et là,
comment est-ce que vous allez profiter de votre retraite officielle, fausse retraite effective, pour continuer à faire vivre justement ce CPFI, ce Centre du patrimoine et de la facture instrumentale ?
Alors, il est évident que les rênes ne m'appartiennent plus maintenant. Je serai là pour conseiller, il faut bien être clair. Donc je laisse à mes chers collègues, parce qu'à un moment donné, il faut aussi donner la main aux plus jeunes qui vont prendre leurs responsabilités, peut-être avoir des nouvelles idées, etc. Quoique les idées, bon, on essaie de les développer ensemble toujours. Mais les idées qu'on a développées sont très nombreuses en fonction du public très nombreux que nous avons. Hein. Il y a des approches, la musique ethnographique, c'est la musique des peuples. Et la musique des peuples, souvent, on la voit sur scène. Mais on n'a pas du tout l'explication sociale, politique, culturelle de la musique, puisque ça devient un spectacle. Dans la vie, la musique n'est pas un spectacle, elle est utilitaire. La particularité de la musique ethnographique, c'est qu'elle n'est pas forcément belle, ce n'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est l'utilité. Et donc, voilà, par exemple, ici, il y a un castelet. Donc, les instruments de musique, eh bien, sont campés dans des légendes. Ils sont nés quelquefois avec des dieux qui ont créé le monde et créé les instruments de musique, comme Vainamoinen pour le Kalevala finnois. Voilà. Et ça, on essaie de récolter des tas de légendes qui existent dans les pays que nous visitons pour les mettre en scène avec les enfants, la petite enfance. Donc là, on est une mission de la ville auprès de la petite enfance. Et on va leur raconter, et après on leur donne les vrais instruments entre les mains. Donc c'est les marionnettes qui vont camper la culture, qui vont leur raconter une histoire. Et du coup, quand ils auront l'instrument entre les mains, ils vont avoir une autre approche, un autre regard sur l'instrument, et ils vont considérer la musique de manière aussi différente.
Tout ce que vous nous racontez semble passionnant. Et alors, dans vos projets pour justement continuer à faire découvrir ce CPFI, vous voulez développer l'action auprès des enfants, des scolaires notamment ?
C'est déjà 80% de notre temps. Hein. On va dans les collèges, on a aussi des missions dans les collèges du département. On a eu aussi des missions dans les lycées, hein, pour le conseil régional aussi. Mais il y a le tout public, ce qu'on appelle le tout public, c'est-à-dire au-delà d'un clivage de génération, au-delà d'un clivage de provenance, par exemple des gens qui sont habités à la ville, qui ont l'habitude de lire des bouquins, d'aller au cinéma, d'aller au concert, etc. Puis les gens du village qui n'ont pas grand-chose, finalement, sinon la nature. Et tout est parti de la nature, il ne faut jamais oublier ça. Et les anciens aussi, hein, dont je vais faire partie maintenant, les anciens ont besoin aussi de continuer à découvrir, à partager. Et toutes ces populations-là, en fait, on tisse un lien social entre toutes ces gens-là. Dans nos conférences, on fait beaucoup de conférences. Dans les expositions que nous faisons, on fait énormément d'expositions.
Dans cette action avec ce groupe ROM que vous accueillez en ce début de semaine.
Alors oui, ça, le groupe ROM, c'est une longue histoire, puisque moi j'avais vu le film Nacho Drome de Tony Catliffe, et dans la scène de la gare, il y avait des ROM qui jouaient, qui dansaient, qui faisaient sourire un enfant. Et ces ROM-là, j'ai eu envie de les rencontrer. Notre ami Alain Weber, qui était conseiller artistique pour Tony Catliffe, c'est par lui et c'est par ce film qu'on sait que les Kaklang existaient. Hein, c'est une famille qui s'appelle les Kaklang. Et donc, on est allé l'année dernière avec les étudiants, un groupe d'étudiants, passer 10 jours chez eux, les étudier dans leur village, enfin les étudier, enfin, c'est vivre ensemble et puis essayer de les comprendre, quoi. Hein, c'est déjà ça, de partager les musiques, de comprendre quelle est cette musique de bugueux, ces voix percussives, etc. On a eu l'idée de les faire venir. Donc évidemment, nous, on n'a pas le budget, on n'est pas un lieu de diffusion. Donc on s'est adressé à l'ESPAL, qui était d'accord. Donc à l'ESPAL, samedi, ben, il y aura un grand concert avec les Kaklang. Et on va les emmener dans d'autres lieux de concert également. Mais toute la semaine, ils vont travailler avec une classe de CM1 au Mans, sur les voix percussives. Et les enfants, samedi, vont monter sur scène pour chanter avec les Roms. Et rien que sur ce projet artistique, on parle beaucoup des Roms aujourd'hui. Ils sont dans le discriminés aussi bien par les hommes et femmes politiques. Certaines, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, par les médias, souvent les maltraitent en montrant des endroits un peu sales, un peu scabreux, un peu comme si les Roms, ce n'était que ça. En fait, il y a aussi des pauvres chez nous, mais on ne les montre jamais. Hein. Je veux dire, dans toute population, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des gens culturels, des gens qui n'ont peut-être pas de goût pour développer la découverte, lire des bouquins, enfin, développer leur propre culture, finalement. Mais chez les Roms, c'est exactement la même chose. Il y en a qui veulent développer leur culture, qui ont un goût pour partager cette culture, et c'est ces Roms-là qu'on a fait venir de Hongrie spécialement pour toute la semaine. Donc, ils vont être au Mans, ici.
Merci beaucoup, Bernard, pour le Laouen de nous avoir présenté les toutes dernières actions du CPFI, ce centre du patrimoine et de la facture instrumentale auquel vous participez malgré votre pseudo prise de retraite officielle.
Ah oui, c'est pas malgré, c'est avec une grande joie.
RCF Le Mans, l'invité de la rédaction.